nous avons fait toute une série sur la masculinité et sur également le discernement. Alors voilà un message qui va clôturer ce que nous avons vu à ces occasions-là. Avec, je vais vous parler, ce que j'avais évoqué, la vision du monde. Notre monde, il est en turbulence. Bon, depuis longtemps, on s'était habitué à lutter avec l'athéisme, c'est-à-dire il n'y a pas de Dieu. Ce qui était complètement nouveau au moment où c'est apparu. Et là, maintenant, ces dernières années, on a des remises en question de ce que c'est que l'humanité. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'un homme, qu'est-ce que c'est qu'une femme, qu'est-ce que c'est qu'une famille. C'est devient bien difficile à définir. Et c'est des choses pour lesquelles nous autres chrétiens, on doit avoir, je pense, des idées claires. Il faut qu'on ait les idées claires. Autrement, on se laissera entraîner avec les pensées qui viennent de notre monde occidental, puisque c'est surtout un problème de notre Occident qui est tout chamboulé. Hein, c'est un petit peu logique, hein, tout le chamboulement qu'on a, c'est la suite logique de toutes ces pertes de repères dans lesquelles on est entré petit à petit. Et de plus en plus fort. Donc, quelle est la vision du monde chrétien? Et ces questions-là sont importantes à se poser parce que la vision du monde chrétien est très bonne. Je ne vais pas passer les autres visions du monde, mais c'était intéressant de chaque fois qu'on a des courants de pensée qui arrivent, mais qu'est-ce que c'est au fond? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce que c'est creux? Est-ce que c'est consistant? Qu'est-ce que je vais trouver à l'intérieur? Est-ce que cela répond aux questions fondamentales? Est-ce que c'est cohérent à lui-même? Est-ce qu'il n'y a pas de choses qui sont tout simplement impossibles, hein? Maintenant, il y a des personnes qui se prennent pour voilà, des esprits ou qui se prennent pour n'importe quoi. Et chacun, comme si chacun était libre de penser qu'il est ce qu'il veut. Il y a beaucoup d'incohérences. Est-ce que ça correspond à la réalité? Est-ce que c'est des choses qui sont réelles, qui sont vraies, qui sont vérifiables? Et est-ce qu'on peut vivre avec? Exemple, j'ai parlé de l'athéisme, la vision du monde athée est très difficile à vivre avec. Les gens qui sont athées sont bien souvent des personnes qui vont tomber dans la dépression, parce que c'est quelque chose qui est absurde et qui conduit dans le malheur, en fait. C'est un exemple. Alors, on va voir trois ce matin. La vision chrétienne de l'histoire. Histoire humaine, du début jusqu'à la fin, parce que ça concerne toute la parole de Dieu. La vision chrétienne dans notre histoire personnelle, elle s'inscrit également, on va voir que c'est là, c'est un pied-collé en fait. On va voir la vision chrétienne de la famille et la vision chrétienne du genre. Ça, c'est nouveau. Jamais on s'était posé ces questions-là. Alors, j'ai fait comme j'ai pu pour y répondre. Parce qu'avant, ce n'était vraiment pas la question que personne ne se posait. Alors, quelle est l'origine? Quel est le sens? Quelle est la morale? Quelle est la destinée? Quatre questions métaphysiques qui sont importantes et que l'on, bien souvent, on ne peut pas y penser. On ne peut pas penser d'où on vient, on ne peut pas penser au sens de la vie, on ne veut pas penser à qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, comment je le sais, ce qui est bien, ce qui est mal, et où je vais. Il faut se poser ces questions-là, et notre monde est en ébullition permanente, et on a rarement le temps de se poser, de réfléchir tranquillement, mais d'où je viens, où je vais, où j'en suis. quelle est la direction de ma vie, quel sens elle a, est-ce que je suis sur un bon chemin, sur un mauvais chemin. Et toutes ces questions-là sont importantes. Au commencement, Dieu, c'est ainsi que la Bible se commence. Hein, et c'est ainsi que tout commence. Tout commence avec Dieu. Et c'est la première, les premières phrases de notre Bible. Et si on regarde les dernières à la fin, dans le dernier livre, le livre de la révélation de Jésus, le livre d'Apocalypse, on lit ceci. « Viens Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. » Et donc entre ces deux phrases, ben, on a l'histoire de l'humanité telle que Dieu nous la présente. Il y a trois créations. On en a parlé beaucoup lorsqu'on a vu la masculinité. Dieu est un Dieu créateur. Tout commence par la création de Dieu, la création de l'homme, création de la femme. Et puis il y a la chute, le péché qui est entré dans le monde, la rédemption avec la venue de Jésus-Christ et l'accomplissement jusque dans l'éternité. Donc il y a tout ce parcours, c'est un parcours de l'humanité qui est prévu, qui est inscrit pour l'humanité, et c'est un parcours dans lequel nous sommes à notre niveau et à notre échelle. On va le voir tout à l'heure. À travers toute cette Bible, Dieu se révèle. À travers la création, on voit qu'il est puissant et on voit qu'il est bon, qu'il fait toutes choses bonnes. Des choses fondamentales qu'il faut se souvenir, Dieu fait toujours de bonnes choses. Il est le créateur et il a fait, on a cette merveilleuse création qui est si fragile, mais qui est si belle et qui est bonne. Il est également le législateur, celui qui fixe, qui donne les lois, qui fixe les règles. Et on avait vu le problème du jardin quand il a créé le premier homme et la première femme. Il avait donné des instructions. Il est également le juge, celui qui va prononcer des jugements et qui va les exécuter, qui va les accomplir. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Dieu n'est pas faible. Il n'est pas faible. Il est patient, par contre. Et on doit apprendre également sa sainteté, sa fidélité, apprendre son pardon et son amour, sa grâce et enfin sa colère, puisque l'accomplissement a ces deux volets, à la fois l'entrée dans l'éternité et la félicité, ou l'entrée dans ce qu'on appelle l'enfer, et qui est lié à la colère de Dieu, qui est une réalité dans toute la Bible. Et il y a bien d'autres choses, mais bon, j'ai noté cela pour nous, un Dieu qui se révèle à nous. Donc, un homme créé à l'image, homme et la femme créés à l'image de Dieu, on avait bien vu ça. On est de Dieu, on n'est pas de nulle part. On a été créé par Dieu, mais nos premiers parents ont été Adam et Ève, ont été désobéissants. Et donc, c'est ce qu'on appelait la chute. Il y a eu là cette coupure, cet éloignement de Dieu, ce défi hein, envers un Dieu qui avait donné la vie et qui avait donné qu'un seul commandement, ce qui concerne le bien et le mal, de ne pas justement devenir s'opposer à un législateur de ce qui était bien et de ce qui était mal. Et donc là, le serpent est venu séduire l'homme et la femme et remettre en question la bonté de Dieu. Le long cheminement de l'humanité dans toute, ça c'est tous les premiers chapitres de la Bible et tous les chapitres qui suivent vont être pour expliquer aux hommes qu'ils ont besoin d'une rédemption. Ils ont besoin de rédempteur. On avait vu en détail la situation de Adam et Ève quand ils ont eu leurs premiers enfants, deux fils dont un a assassiné l'autre. combien il y avait besoin de rachat. L'humanité avait besoin d'être rachetée, d'être sortie de ça, de la fange du péché qui était rentré dans le monde avec la chute, avec la désobéissance. Et ça dure des chapitres entiers, à travers notamment l'histoire du peuple d'Israël, c'est la petite histoire dans la grande histoire, et à travers toute cette histoire, on comprend quel est le mal profond de l'homme qui se situe dans son cœur, le mal qui est inexprimable, qui ne peut être détaché de la nature humaine. Et donc également le dessein d'un rédempteur, quelqu'un qui allait pouvoir venir résoudre ce problème, racheter l'homme, payer le prix pour qu'il puisse être sorti de ce problème-là. Et donc, le rédempteur, c'est Jésus-Christ. Et donc, effectivement, Jésus-Christ vient et il donne sa vie pour prendre le jugement et la condamnation que mérite tout péché, toute personne qui fait le mal et on commet le mal. Chacun de nous le savons. Toute personne qui commet le mal tombe sous le jugement de Dieu. Un Dieu qui est bon et qui ne tolère absolument pas, d'aucune manière, le mal en sa présence. Sacrifice de Jésus-Christ qui prend sur lui le poids de nos fautes et qui donne sa justice. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et donc là, on est au moment qu'on va célébrer à Pâques, c'est-à-dire au début de notre ère, en l'an 30 à peu près. Donc il y aura bientôt 2000 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé après, depuis ces 2000 ans? L'application du salut par la foi en Jésus-Christ, on le voit démarrer dans le livre des Actes des Apôtres, l'œuvre du Saint-Esprit qui va permettre à des personnes de devenir des enfants de Dieu. Ils vont être convaincus de péché, de justice, de jugement, ils vont être convaincus que Jésus-Christ est le Sauveur dont ils ont absolument besoin et ils vont croire par la foi en l'œuvre de Jésus-Christ, ils vont être sauvés, ils vont recevoir la rédemption de leur âme et la rédemption future de leur cœur également. Et jusqu'à présent, ce message de l'Évangile se diffuse dans toutes les nations, avance au niveau de la planète, dans toutes les directions, il est en marche. Et jusqu'à ce que ce soit terminé, il y a un moment qui est fixé où à la fois Dieu va il est patient, il propose son pardon, il est fidèle, il propose sa grâce bienveillante, mais un jour ce sera fini, la porte se refermera, la porte du salut se refermera et il y aura la place pour le jugement de tous ceux qui ne sont pas acceptés. Cette offre de rédemption, ce rachat, tout ce qui n'ont pas été rachetés, se trouveront confrontés au Dieu trois fois saint. Et là, toute bouche sera fermée, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Les personnes qui seront là devant Dieu seront forcées de reconnaître Dieu a raison, j'ai tort, je suis coupable et tout ce qui va m'arriver maintenant, j'en suis responsable, c'est juste. Et il doit en être ainsi. Et donc, ce sera l'entrée dans l'éternité, l'accomplissement final du salut. Et donc ça, c'est dans l'histoire, dans le temps, et nous, on est quelque part par là, dans l'histoire de la Bible. On est entre les épîtres de Paul et les prophéties qui concernent la fin des temps. Mais ça, cette histoire-là, c'est aussi notre histoire personnelle. C'est aussi l'histoire personnelle du chrétien. L'histoire du chrétien qui comprend qu'il est une création, qui comprend qu'il est pécheur et qu'il ne peut pas arriver à s'en sortir lui-même, qui accepte Jésus-Christ, qui se se tourne vers lui et qui voit en lui, voilà, c'est mon sauveur, c'est lui que je veux suivre, c'est lui le seul qui peut me sauver. Et de croire à son sacrifice à la croix. Et ensuite, donc, le Saint-Esprit fait cette application du salut dans nos vies et il va nous conduire dans la sanctification, nous purifier, nous laver, renouveler l'intelligence, faire de nous, faire du chrétien de nouvelles personnes jusqu'à ce que ce soit fini, le séjour sur la terre, et que le temps de l'éternité arrive pour toutes les personnes, donc après notre mort, vient le temps de l'éternité, le temps de l'attente du règne de Jésus-Christ, et puis les rétributions qui viendront avec lui, quand ce sera le moment. Voilà la vision chrétienne du monde. Alors, là, j'ai une carte étape en haut, on peut les voir différemment, il y a différentes façons bien sûr de le présenter, il y en a qui présentent ça avec des alliances, il y a une multitude de manières dont on peut exposer la vision de l'histoire, de la grande histoire, et dans cette grande histoire, chacun de nous avons notre petite histoire personnelle qui trouve sa place, mais qui est un résumé de cette grande histoire. La vision de la famille. Alors j'ai trouvé cette belle ombre là qui a un bilan quand même. Vous allez dire non, c'est pas comme ça quand même, c'est trop sévère. Chacun son parapluie, et puis l'enfant au milieu, lui n'a pas de parapluie. Et puis on voit les silhouettes, mais on ne sait pas trop si ce sont des hommes, si ce sont des femmes. Les choses ne sont pas claires. Vous pourrez dire, mais c'est un peu sévère quand même. Est-ce que chacun est personnel comme ça? Est-ce que chacun pense qu'à soi? Je le laisse à votre appréciation. C'est vrai que c'est sévère. Peut-être beaucoup de personnes me diront non, c'est pas ça. Moi, pour moi, la famille, c'est plutôt ça. Voilà, on fait les choses ensemble. Et voilà, on a un parapluie qui protège toute notre famille. Et on le tient ensemble. Et peut-être la vision... Pour beaucoup de nos contemporains, la vision de la famille, c'est peut-être ça. La vision chrétienne est un peu différente. Il y a plusieurs parapluies. Il y en a la maman qui est la première protectrice de ses enfants. Il y a son parapluie pour se protéger et qui protège également ses enfants. Et il y a l'homme qui protège à la fois sa femme et à la fois ses enfants. Il y a un parapluie qui est encore au-dessus du parapluie de la maman. Il y a la parapluie du papa. Et voilà, c'est ce qui ressort un petit peu dans cette question du leadership. Le leadership de l'homme sur la famille, et le leadership de l'homme, ben voilà, il est matérialisé ici par le grand parapluie. C'est lui qui est en charge de tout le monde. Et la femme, elle, est surtout focalisée sur ses enfants. Mais la vision chrétienne, c'est encore autre chose. C'est encore une autre dimension. Et c'est chacun se place sous le grand parapluie de Dieu. Chacun se place sous la protection divine. Chacun place sa famille sous la protection divine. Et donc voilà, les familles sont bien protégées par une multitude de parapluies. Et également, il y a une dimension communautaire, on n'est pas tout seul. Mais on est avec avec d'autres personnes. La famille chrétienne n'est pas une famille qui est isolée, mais qui est une famille qui est au milieu d'autres familles. Et tout le monde forme une grande famille, la famille de Dieu, sous le parapluie de Dieu. Josué 24, 14, 15, j'ai choisi ce verset pour nous. Ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, dans la traduction second. Et donc, c'est le chef de famille qui parle. Alors, vous direz peut-être, voilà, ça c'est un peu la vision idéale de la famille. Qu'est-ce qu'il en est vraiment? Vous pourrez dire, ma famille, elle ressemble pas à ça. Et c'est important de se rappeler notre grand tableau ici. Parce que si on est des chrétiens, eh ben on a accepté le grand parapluie de Dieu. Mais il faut savoir que l'application du salut est en cours. C'est quelque chose qui est en chemin. On n'est peut-être pas arrivé à quelque chose qui nous satisfasse en tant que chrétien. On dit on a beaucoup de faiblesses, beaucoup de chutes, beaucoup de difficultés. Mais l'accomplissement, c'est le Saint-Esprit. L'application du salut, c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, et on peut être sûr qu'il terminera. Le Dieu qui nous a créés est capable de nous sauver. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il a envoyé son fils Jésus-Christ, qu'il avait de plus précieux pour ça, et il ne va pas arrêter le travail à mi-chemin. Et même si on voulait qu'il en soit autrement, le Dieu créateur peut. Il a tous son trait de caractère, il a tout ce qu'il faut pour amener les choses dans leur accomplissement, à le rendre parfait. Et même si il y a des défaillances majeures, il a le grand parapluie au-dessus. C'est le meilleur des parapluies. Et il est capable, même si le papa n'est plus là, le grand parapluie de Dieu est là. Même si la maman n'est plus là, le grand parapluie de Dieu est là. Et même si ni papa ni maman, pour les enfants, le grand parapluie de Dieu est là aussi. Et on n'est pas ainsi perdu, on n'est pas isolé. Une relation personnelle avec Dieu, à travers la rédemption, devenir enfant de Dieu, faire partie de la famille de Dieu. Et on peut être certain que l'accomplissement aura lieu. Mais il n'empêche, la vision de la famille chrétienne, je l'ai représentée comme ça. Bon, peut-être vous avez d'autres façons de la représenter, l'histoire des parapluies n'est pas de moi. voilà. Si on regarde maintenant le genre, comment notre monde voit le genre? Alors ça, notre culture gréco, on est latin, hein, culture d'origine latine, et latine, ça c'est les symboles gréco-romains, hein, avec le symbole de l'homme, c'est la planète Mars, et le symbole de la femme qui est la planète Vénus. Et donc c'est un petit peu comme ça. Donc Mars, c'était le dieu de la guerre, et Vénus, donc, c'était la déesse de l'amour. Et on est un petit peu sur ces schémas là il y a d'autres visions. Donc ça, c'est un petit peu ce qui est conventionnel, avoir les attributs de ressemble à Mars et à la femme, elle, elle est féminine, tout ce qui on pense en pensant à une déesse, ou tout ce qu'on peut penser en pensant à un guerrier. Ça, c'est la vision orientale, des religions orientales, de la culture orientale. Et donc, il y a des attributs qui sont donnés, en fait. Bon, c'est un peu compliqué. D'autant qu'en français, on a des mots qui sont genrés, il y a des mots féminins, des mots masculins. On voit que ça. Bon, il y a des personnes. C'est un petit peu les visions du genre qu'on a. Et la dernière en date, donc, c'est que, ben, le genre, c'est ce qu'on veut. On met dans le genre exactement ce qu'on veut, indépendamment de la façon dont on est né, de notre sexe biologique. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de confusion. J'ai choisi ce texte pour nous, dans les Thessaloniciens. Paul parle à la jeune église de Thessalonique. Il leur écrit une lettre. Il a dû rester quelques semaines, mais là, il a dû repartir après avoir fondé l'église. Et après, bien sûr, il se fait du souci pour eux et il leur écrit une lettre. Nous disons ceci. Jamais, en effet, nous n'avons eu recours à des paroles flatteuses, comme vous le savez. Donc, il parle de ce moment où il a implanté l'église, où le christianisme est arrivé dans la ville de Thessalonique pour la première fois. Jamais nous n'avons eu la soif de posséder pour mobile, Dieu en est témoin. Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer en tant qu'apôtres de Christ, mais ce n'est pas ainsi que Paul a procédé avec les Thessaloniciens, ce n'est pas ainsi que l'évangélisation du monde se fait. Verset 7. De Thessaloniciens 2:7, mais nous avons été pleins de bienveillance au milieu de vous, de même qu'une mère prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères et sœurs, notre peine, notre fatigue. C'est en travaillant nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun de vous que nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, Dieu l'est aussi, que nous nous sommes comportés envers vous qui croyez d'une manière sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'on père et pour ses enfants. Nous vous avons encouragés, réconforter, supplier de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Alors là, on voit à travers ces deux versets, Paul fait appel à ce que Dieu a pourvu et équipé les hommes et les femmes. Dieu a créé l'homme, l'humanité, mâle et femelle, et avec donc des attributs, enfin des réglages, qui se dit, si on peut dire ça, pour les femmes donner la vie, porter des enfants et les amener jusqu'à ce qu'ils grandissent, et pour les hommes donc de protéger pour que l'épouse, la femme de l'homme, puisse pouvoir avoir des enfants et s'en occuper dans les meilleures conditions. Donc l'homme est là avec des attributs de protection. Il est plus physiologiquement différent pour remplir ce rôle-là, et la femme également. Et on voit que Paul épuise dans les deux, en fait, pour parler de la façon dont il s'est occupé des Thessaloniciens, et donc la bienveillance, la douceur, les tendres soins ne sont pas quelque chose que seules les femmes aient. Les hommes sont capables également d'être tendres avec les enfants, d'être pleins de soins, etc. Et il fait également allusion à la paternité ici, encourager, réconforter, supplier d'une manière de marcher digne. Et donc, voilà qu'il met ces choses-là en avant. Donc, il n'y a pas vraiment de différence. Et il prend tout ce qui concerne la biologie. Et il n'y a pas de quelque chose qui soit réservé à l'homme ou un trait qui soit réservé à la femme. C'est pas comme ça, en tout cas, que ce texte le présente. Et d'une façon générale, la Bible ne s'intéresse pas du tout à ce sujet-là. Ça ne vient pas du tout à l'idée qu'un homme puisse vouloir devenir une femme, ou qu'une femme puisse vouloir devenir un homme, ou un homme vouloir devenir autre chose, ou une femme encore autre chose. C'est pas le sujet pour la Bible, et ça ne doit pas être le sujet pour nous non plus de nous attarder sur ces questions-là. Néanmoins, j'ai poussé l'exercice jusqu'au bout. Le texte de Éphésiens, comment déterminer les choses qui sont masculines et féminines. Donc, la lettre aux Éphésiens se termine par des recommandations pastorales dans l'administration de la maison, du travail, etc. Et donc, on lit ici le contexte « Soyez remplis de l'Esprit Saint, remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. » Ce contexte étant posé, il s'adresse aux femmes. « Soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. » Et après, il s'adresse au mari. « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée, lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni rite, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » Et il conclut donc, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux ne feront qu'un, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et par rapport à l'Église. » Donc Christ masculin et l'Église féminine. Et donc, c'est avec cette vision-là, l'Église de Jésus-Christ, composée d'hommes et de femmes, porteurs du féminin, et Jésus-Christ, lui, porteur du masculin. Et alors, ça donne quoi pour l'homme et pour la femme, donc, qui porte ces images? Pour la femme, il y a la question de la soumission qui apparaît ici dans notre texte et qui doit être compris dans ce contexte-là. Notamment, il y a « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu ». Donc, le premier à qui on se soumet, c'est à Dieu. Et la femme se soumet parce qu'elle est aimée. Marie aimée, femme, soumettez-vous. Donc, il y a les deux vis-à-vis. Je vais en reparler dans un instant. Je vais noter que la femme reçoit, celle qui adore. Dans les plus beaux actes d'adoration qui sont reportés dans le Nouveau Testament, en particulier, sont des actes d'adoration faits par des femmes. On voit une femme qui verse des larmes sur les pieds de Jésus et les essuie avec ses cheveux, ou qui prend un flacon et qui le verse sur sa tête. L'adoration est féminine, l'adoration c'est quelque chose qui est vraiment, on a des chants d'adoration dans notre recueil qui sont vraiment féminins, Mais on les chante tous ensemble. Et la beauté également, voilà, vous avez vu, Christ est le chef de l'Église, ici, là, il s'est donné lui-même afin de la conduire à la Sainte Trappe, à avoir purifié, lavé, pour faire apparaître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, belle. Le féminin, donc, qui reçoit, qui se soumet, qui adore, et qui est belle. Et pour le masculin, ben c'est l'amour qui est masculin. Aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Et c'est quelque chose qui est martelé, hein, qui concerne les hommes. Les hommes doivent aimer. Ils doivent également donner. Il s'est donné lui-même pour elle. Si on avait lu dans le texte de la Genèse que la femme a été créée pour l'homme. Ici, c'est clairement, l'homme se donne pour la femme. Et ils ne sont jamais l'un sans l'autre. Et c'est lui également qui se sacrifie. Ça, c'est quelque chose qui est... Bon, j'aurais pu... Si on reprend l'image du parapluie, c'est l'homme qui tire le parapluie pour protéger sa femme de la pluie. C'est comme ça. Et il est plus grand et puis c'est lui qui va se mouiller. Et la femme, elle va être protégée sous le parapluie de son mari. Il se sacrifie. C'est lui qui... C'est difficile d'imaginer qu'il en soit autrement. L'homme, il est plus fort, il a plus de capacités physiques, et lorsqu'il y a des choses périlleuses à faire, des choses difficiles à faire, ben c'est lui qui va en premier, il est le mieux équipé pour cela, et donc le mot de sacrifice est attaché à la masculinité, il me semble. Et il y a la question de virilité, également, qui répond à la beauté. Donc, l'amour a son vis-à-vis de la soumission. Et l'adoration, donc, qui est une réponse au sacrifice de Jésus-Christ. Donc, c'est... Bon, vous voyez, ça n'a rien à voir avec notre diapo précédente. Qui était qui était celle-là, avec tous ces termes qui sont sans doute sympathiques, mais il n'y a pas dans le sacrifice, il n'y a pas dedans l'adoration, il n'y a pas dedans l'amour, il n'y a pas la question de donner, de se donner. Il n'y a pas la question non plus d'être la personne qui reçoit. Voilà, c'est différent. Alors si on reprend notre plan ici, j'ai rajouté ici donc la masculinité, la féminité, la vision chrétienne. Bon, ça, j'ai trouvé une part personne d'ailleurs qui avait réfléchi sur ces questions-là avant. Mais c'est exactement la même chose. On n'est peut-être pas du tout dans ce schéma-là. On se sent complètement loin de ça. Mais c'est pareil. Hein. C'est, quand on est chrétien, tout ça, ça se met en place. C'est guidé par le Saint-Esprit. Et normalement, petit à petit, les choses se mettent en place dans la paix. Comment ça reste aux questions fondamentales? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que ça correspond à la réalité? Est-ce qu'on peut vivre avec cette vision de la masculinité, de la féminité, par exemple? Ou est-ce qu'on peut vivre avec cette vision de la famille? Je le laisse... à votre appréciation et à votre à vos réflexions. Je ne prétends pas que ce soit le top, mais voilà, de se garder les idées claires, de ne pas se laisser emporter. Je crois que le défi là qu'on a, c'est qu'il y a actuellement de la jalousie. Chacun se jalouse l'autre. Les hommes jalousent les femmes jalousent l'homme, les hommes. Et ça, c'est bien compliqué. Voilà, que Dieu nous permette d'apprécier, de pleinement vivre ce que l'on est, d'être un homme, d'être une fille, d'être pleinement, de vivre ce que Dieu attend de nous, et en étant une femme, apprécier pleinement et vivre ce que Dieu attend de nous et ce pourquoi il nous a chacun, l'un et l'autre, équipés, pour que l'ensemble voilà, fasse les deux ne feront qu'un. C'est ça l'objectif. Et par rapport à la vision de Jésus-Christ et de son Église, c'est quelque chose, un grand mystère, comme il est noté ici. Merci Seigneur de ce que tu nous as créé, tu nous as voulu, tu nous as placé sur la terre, et tu as un plan pour chacun d'entre nous. Tu cherches à ce que nous trouvions Jésus-Christ pour recevoir de lui, pour être un modèle, pour recevoir de lui le pardon, le salut, et pour nous convertir, pour l'inviter à venir, à présenter notre pardon, demander pardon, recevoir son pardon, recevoir l'Esprit Saint qui va faire cette transformation unique et mystérieuse et incompréhensible souvent, pour nous amener à la sainteté, à la beauté aux yeux du Seigneur, non pas à la beauté physique, mais la beauté du caractère à l'intérieur de nous. Merci Seigneur de faire tout ça. Nous te prions pour notre situation de notre société. Nous te demandons Seigneur que nous soyons courageux pour pouvoir expliquer avec nos mots les choses chaque fois que nous en avons l'occasion. Et Seigneur, nous donnons ta sagesse et ton esprit. Merci de nous garder toujours tout entier tourné vers toi, avec jamais de perdre de vue où nous allons, d'où nous venons, et ce que toi tu es pour nous, et ce que tu es dans ta magnificence également. Par Jésus, Amen. Oui.